Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Café de la Recherche Engagée. On est encore en direct, entre guillemets, de l'atelier d'identité sociale Maurice Bélanger à Ottawa. Et en fait, cette semaine, on reçoit deux invités très intéressantes qui vont nous parler d'un champ de recherche qui est, assez ancien quand même, mais avec une perspective différente peut-être sur peut-être une perspective plus locale, québécoise ou canadienne. Et évidemment, ces temps-ci, on n'y échappe pas beaucoup dans les médias, ça parle beaucoup, c'est des situations qui sont quand même assez dramatiques, qu'on voit partout. On va parler de discrimination systémique, c'est un mot que vous avez peut-être vu passer, donc on en parle des fois dans les talk shows. Certains politiciens refusent même de nommer ce mot systémique pour faire une petite blague avec notre premier ministre québécois. Bien évidemment, c'est un sujet qui est délicat, mais c'est un sujet qui est également extrêmement intéressant. Aujourd'hui, on reçoit deux étudiantes à la maîtrise en innovation sociale à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, Faravena Bénédicte-Olivier et Samantha Lopez-Uri. En fait, c'est drôle parce qu'on vient d'avoir un cours intéressant, moi, Faravena et Samantha, sur différents sujets assez émotionnels. Et donc, en même temps, il y a comme une petite température un peu grisâtre, petit temps morose, il pleut quand même. Donc, ça fait une petite ambiance un peu morose pour parler de la situation un peu, un peu dramatique. On va commencer par Faravena. Est-ce que tu veux expliquer rapidement sur l'exercice que j'aime faire avec nos invités de ta recherche? Donc, ta recherche que tu fais actuellement sur les discriminations. Parle-nous un peu de c'est quoi, tu as 30 secondes, top chrono.
Merci Félix. Donc c'est ça, donc comme il l'a bien introduit, on va parler des discriminations systémiques. Moi, ma recherche, elle porte vraiment sur l'interaction en fait qui existe entre les femmes BIPOC et la police. Donc on voit souvent dans les médias qu'on parle de profilage racial, mais qu'on met très souvent l'expérience des hommes en avant par rapport à ce qu'ils vivent dans l'interaction avec la police. Donc mon but, c'est vraiment de saisir l'expérience des femmes en tant que telles dans cette interaction-là.
Puis juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, quand on parle de BIPOC, c'est quoi juste cet acronyme-là, peut-être pour qu'on soit ça?
Oui, donc en anglais, c'est ça, c'est Black Indigenous People of Color. Sinon, en français, c'est PANDC, donc Personnes Autochtones Noires de Couleur. Donc, c'est vraiment un acronyme qui...
C'est moins accrocheur en français, ça se dit moins bien, peut-être un peu. parfait, donc maintenant, on va passer la parole à mon invité à ma droite, Samantha Lopez-Uri. Samantha, en fait, je vais te demander un peu le même exercice. Là. Tu peux un peu résumer ta recherche. On est dans un différent champ, mais on est quand même proche un peu l'un de l'autre. Donc, vas-y, je te laisse la parole.
Oui, merci Félix. C'est ça, moi, ma recherche porte principalement sur toute la perspective qu'ont les personnes racisées quant aux approches d'équité, diversité, inclusion dans le milieu communautaire montréalais. Donc, ça vise principalement à comprendre, depuis 2020, on a comme une montée d'entreprises, d'organisations qui décident de mettre en place cette fameuse politique équité, diversité, inclusion ou une « feel good politics », entre guillemets, donc qui vise à répondre à différents enjeux de discrimination et de racisme dans le milieu de l'emploi. Donc, mon but, c'est de comprendre la perspective des personnes racisées parce qu'on l'entend très, très peu. Parfois même, elle est invisibilisée. Donc, à travers ma recherche, c'est vraiment de donner cette voix à ces personnes pour mieux recenser puis mieux comprendre comment c'est perçu les politiques EDI, mais est-ce que c'est vraiment une politique EDI qu'on veut mettre en place? Donc, voilà un petit résumé de ma recherche.
Là, on parle beaucoup de EDI, équité, diversité, inclusion. Puis ça, c'est un truc que j'ai l'impression que, on connaît un peu, on l'a peut-être déjà vu dans une offre d'emploi, on l'a peut-être déjà vu passer donc, dans des politiques du gouvernement et donc dans les organismes, entre autres. C'est un truc qui est peut-être un peu vague pour le commun des mortels, disons-le comme ça. C'est quoi, au juste, ça vient de où, ce concept-là d'équité, diversité, inclusion? Juste faire une petite parenthèse, vite, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de politiques EDI qui sont déjà mises en place depuis plusieurs années. Donc, on retrouve ça dans les entreprises ou dans les organisations qui ont des ressources humaines. Donc, ça permet de créer des politiques qui visent à avoir ces trois principes, trois valeurs pour mieux guider les employeurs dans la construction d'un espace de travail qui va être sécuritaire, qui va être diversifié, mais qui va être aussi inclusif. Donc, on le voit aussi qui se développe dans le milieu communautaire, mais sous différentes formes. Donc, on peut parler d'approche antiraciste ou anti-oppressive.
Donc, je vais un peu commencer à introduire le sujet. Je sais que vous avez tous deux mené des ateliers, en fait, là, dans le cadre de l'atelier par rapport au CRITS, là, le centre de recherche de l'université. Vous avez un peu des spécialités dans différents champs, en fait. Donc, d'un côté, c'est plus la discrimination au sein du communautaire, donc des choses, des fois, un peu derrière des portes closes qu'on voit plus rarement, donc des expériences plus personnelles. Puis l'autre côté, si on parle de l'espace public, donc cet espace-là qui est, bon, on sait, la police est présente dans l'espace public. Les fois, tu as des interventions dans la rue, tu vois ça passer. Donc, les trucs un peu, des fois, sont choquantes. Donc, c'est intéressant de voir cette dualité-là entre le communautaire, si on veut, l'interne et l'externe, l'espace public. Donc, vous avez mené des ateliers, en fait, sur ces sujets-là. Je ne sais pas si vous voulez un peu parler de ces expériences-là, de mener un atelier. Qu'est-ce que vous avez eu comme conclusion? Est-ce que c'était des expériences intéressantes pour votre recherche, en fait, là?
Mais avant de parler des ateliers, je pense que c'est important de comprendre de où on est parti. Parce que moi et Farah, on a commencé la maîtrise ensemble, puis on a constaté à travers les cours, mais aussi à travers nos projets de recherche, que les discriminations, c'est ce qui revenait le plus souvent. Puis je pense que c'est comme notre point commun dans notre recherche, surtout qu'on met de l'avant les personnes racisées. Donc, je pense qu'on est venu à un consensus de ben, pourquoi pas créer quelque chose qui va arrimer nos projets, mais arrimer aussi nos solidarités, nos connaissances, nos expériences. Donc, on est venu à créer cet atelier dans le cadre du stage du CRITS. Puis, c'est un atelier qui a permis d'avoir non seulement des personnes racisées, mais aussi des personnes alliées, donc des personnes non racisées, qui sont venues un peu partager, mais aussi écouter ces expériences-là, parce que souvent, on les voit dans les nouvelles, dans les médias, mais on connaît très peu l'expérience des personnes, comment elles le vivent concrètement. Donc, on est venu à faire un atelier qui a permis aux personnes de regarder leur posture puis de voir comment on peut agir concrètement, comment on peut créer cet espace-là qu'on veut s'imaginer collectivement pour un meilleur avenir, pour créer des espaces plus sécuritaires, plus sains pour les personnes racisées.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose de Farah Venant par rapport à ça?
Oui, une des choses en fait que je voudrais rajouter que j'ai observé puis qui pour moi c'est, tu sais, ça nourrit un peu ma réflexion puis probablement Samantha aussi, c'est vraiment par le fait qu'on avait, tu sais, des personnes racisées mais qui avaient aussi un background différent dans le sens qu'il y en a qui sont pas nécessairement nés ici, qui ont grandi dans différentes régions, que ce soit en Afrique ou dans les Caraïbes, etc., mais qui ont aussi été en mesure de partager que leur rapport au racisme systémique est comme un peu différent. De la manière qu'ils l'ont vécu, qu'ils le voient en fait ici au Canada, c'est différent de ce qu'ils voient chez eux. Il y a quand même une certaine forme de discrimination, mais qui est différente de celle qu'on voit ici au Canada. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir voir un peu cette distinction au niveau de la discrimination. Puis c'est là que ça nous montre que l'expérience en tant que telle, elle est unique, elle est importante justement aussi à prendre en considération dans les réflexions sur ces enjeux-là.
Puis avant, mettons qu'on parle de vos recherches respectives, peut-être plus en détail, j'ai l'impression que vous aviez comme deux aspects, donc l'espace public et l'espace communautaire, donc plus interne. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y avait comme deux sujets de recherche qui étaient comme en une présentation? Comment vous avez fait pour allier les deux termes qui sont quand même différents, qui ont quand même des champs d'intérêt différents, en un truc commun? Est-ce que c'est un défi pour vous, en fait, de faire un truc qui était comme commun, je dirais, de cette façon-là, dans les thèmes qui ont été abordés?
Je pense que Samantha l'a bien dit. Tu sais, on a vraiment... je pense que ça a été quand même assez facile pour nous. On a vraiment été dans, tu sais, nos points communs, qui étaient vraiment l'expérientiel des personnes racisées. On a vraiment été aussi dans l'aspect, justement, du racisme systémique, des discriminations systémiques. Ça a été vraiment notre point d'ancrage pour pouvoir vraiment être en mesure d'apporter, en fait, cet atelier-là. Même si, oui, les espaces qu'on analyse, en fait, sont différents, mais les enjeux demeurent quand même un peu les mêmes de manière générale.
Je veux vous entendre un peu, parce que là, on parle d'expérience, puis c'est peut-être une petite parenthèse que je veux faire par rapport à notre podcast qui est sur la recherche, en fait. Est-ce que vous pensez que la recherche met assez de l'avant l'expérience? Souvent, on a tendance à voir la recherche comme un cadre extrêmement rigide. Même moi, dans ma recherche, j'essaie de trouver des cadres théoriques des fois. Puis là, on parle d'expérience, puis est-ce que ces expériences-là sont invisibilisées de l'espace de la recherche?
Moi, je pense que oui, mais par contre, je pense qu'il y a une conscientisation de plus en plus qui se fait au niveau de l'importance, en fait, de l'expérience individuelle des personnes. Mais c'est sûr qu'avant, tu sais, on avait l'impression qu'au niveau de la recherche, c'était beaucoup ancré dans les théories, tu sais, dans l'observation même, mais pas l'interaction directe avec l'individu. Mm-hmm. Donc, de plus en plus, on voit qu'il y a ce souci, en fait, d'aller vers les personnes puis de comprendre réellement leur expérience, parce que faut pas oublier non plus que c'est eux qui le vivent au quotidien. Donc, c'est eux qui sont comme un peu maîtres de, quand on parle de racisme ou etc., c'est eux qui sont maîtres un peu de ces expériences-là, puis qui peuvent justement nourrir les réflexions puis amener justement des nouvelles perspectives. Donc, je ne sais pas si Samantha, tu voulais dire plus de choses.
Ouais, pour avoir participé à des recherches en tant que collaboratrice au nom d'une organisation, donc des projets partenariales, mm-hmm, ou même recherche-action, il y en a qui vont tenter de mettre de l'avant les expériences, mais c'est souvent la posture du chercheur qui est à remettre en question. Puis c'est ce processus-là, je le prends vraiment au sérieux, puis c'est très ancré dans ma démarche à moi, parce que si on veut donner la voix à ces personnes-là, il faut prendre un pas de recul, il faut reconnaître nos privilèges, il faut reconnaître aussi qu'on est dans une relation de pouvoir, qu'on fait ce genre de recherche, puis souvent qu'on touche des sujets hyper sensibles. Je pense que le fait de faire pratiquement une recherche par et pour, donc par et pour les personnes racisées, parce que je m'inclus là-dedans, ça crée un lien de confiance qui est super important quand on fait de la recherche, parce que c'est, on deal avec des humains, pas des archives ou des documents, mais des humains. Donc, pour moi, ça, c'est important, puis je le mise tellement dans ma recherche, puis j'essaie vraiment de le faire aussi dans les espaces qu'on a fait, moi et Farah, là, dans les espaces d'échange. Donc,
est-ce que c'est un défi? Parce que là, j'imagine que vous avez commencé à faire votre recherche, là, du moins, tu sais, ça doit être dans les étapes de l'écriture ou du moins de la recherche ou tout ça. Je ne sais pas, vous êtes rendu où, en fait? Vous pouvez me l'expliquer si vous voulez.
Je finalise. Je suis en train de faire les entrevues. Donc, j'ai une portion des entretiens individuels, puis une autre portion focus group avec les mêmes personnes. Donc, il me reste à interviewer quelques personnes plus le focus group. Donc, je suis plus dans un processus de peut-être revoir ma question de recherche, mon approche, mm-hmm, parce que c'est, comme on l'a mentionné, parler de racisme et discrimination, c'est hyper complexe. Ça ramène des traumas, ça ramène des expériences. Puis souvent, ce que j'ai remarqué quand je navigue dans ces questions-là, ou même quand j'approche les gens sur ce sujet, il y en a qui veulent, sont super allumés, mais il y a une réticence à briser ce silence. Parce que souvent, c'est une culture du silence qui a été bâtie au sein du milieu communautaire, et que finalement, quand il y a quelqu'un qui t'approche et dit « Hey, veux-tu en parler? » Tu veux, mais en même temps, t'as peur. Donc, ça permet de revoir un peu mon approche, permet de revoir aussi mes questions, mais aussi de voir ces dynamiques-là au sein même du groupe.
Puis toi, Faramela, t'es rendue où dans ta recherche pour qu'on ait sur la même... on parle au moins de la même chose?
Faut savoir qu'une recherche, c'est stressant. mais moi, à mon niveau, il me manque vraiment à pouvoir commencer mes entrevues. Mais sinon, en attendant, je me mets pas de barrière, dans le sens que je continue quand même à faire des lectures sur le sujet, parce que comme Samantha l'a dit, c'est hyper complexe. Il y a tellement de paramètres à prendre en considération quand on parle de ces enjeux-là. Fait que je suis vraiment dans un moment où je lis le plus que je peux, puis j'essaie le plus que je peux aussi de me nourrir au niveau des réflexions que j'ai, soit avec des amis, des proches ou des personnes qui eux-mêmes ont vécu des situations avec la police, qui m'aident aussi dans ma réflexion de comment est-ce que j'aborde vraiment le sujet. Donc,
Puis est-ce que vous voyez venir, là, je sais que vous n'êtes pas non plus à l'étape d'être de l'analyse des résultats, mais est-ce que vous voyez venir un certain enjeu par rapport à ça, d'utiliser l'expérience des gens dans une recherche qui se veut académique, qui se veut, pas théorique, mais en tout cas aussi académique? Est-ce que vous voyez déjà, je me dis que vous avez déjà commencé à penser à vos limites, c'est quoi, par rapport à l'expérience, peut-être, qui peut être une difficulté pour vous en ce qui a trait au sujet que vous touchez, ou ça se peut qu'il n'y en ait pas non plus, si c'est le cas, là?
Je pense qu'une des limites que je vois, c'est... tu sais, je fais pas beaucoup d'entrevues, parce que le but, c'est de faire des entrevues de façon individuelle, mais ensuite reprendre ces personnes-là pour un focus group. Donc, c'est sûr que le nombre est très limité. Donc... je veux pas non plus que cette recherche-là soit perçue comme étant quelque chose de fixe, comme étant genre ça c'est les faits puis ça finit là puis on arrête d'y penser. C'est 5 expériences qui vont être complètement différentes, et qui sont uniques. Puis je pense qu'on peut se retrouver dans ces expériences-là, mais ce n'est pas nécessairement représentatif. Puis je pense qu'une autre limite auquel j'y pense depuis un petit bout, c'est l'accessibilité de l'information. C'est très académique, ça va être très dense en termes de théorie. Donc, c'est de réfléchir à comment je m'assure de, par la suite, de rendre accessible l'information pour que les gens puissent sentir qu'ils ont fait partie d'une recherche, ont fait partie de ce processus-là qui peut être assez long, assez complexe. Donc, de voir comment je veux le diffuser. J'ai quelques idées, mais c'est ça, ça reste encore embryonnaire dans ma tête.
Est-ce que tu rajoutes quelque chose ou ouais?
L'enjeu que je vois, moi, c'est au niveau de justement aller dans l'expérience en tant que telle des personnes et tout ça, c'est pour moi, ça a vraiment été le après. Après avoir justement découvert tout ça, après avoir entendu ces expériences, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour... parce que moi, j'aborde le sujet de la relation police-femme-BIPOC vraiment dans une perspective du corps de ces femmes. Comment justement elles se font oppresser avec le corps policier sur leur propre corps à elles, puis comment elles se sentent dans leur corps en présence de la police en tant que telle. Puis ça crée, veut pas, tu sais, il y en a beaucoup qui vont avoir des traumas. Donc c'est vraiment le après. Qu'est-ce que cette recherche-là est en mesure... c'est de leur apporter. Moi, c'est vraiment à ça que je réfléchis beaucoup quand même. Ouais.
Puis quand tu parles, là, tu parles des corps, tu sais, en fait, c'est une question peut-être un petit peu, bon, naïve, mais c'est quoi au juste que tu entends par le corps des femmes? Tu sais, on entend le corps policier, mais le corps des femmes, c'est drôle, mais bref.
Ouais. Faut se dire que, au niveau de ma recherche, je me base vraiment dans une perspective intersectionnelle. Puis ça, c'est vraiment par le fait que l'intersectionnalité, c'est un concept qui permet justement de prendre en considération les différents niveaux d'oppression que peut vivre une personne avec ses multiples identités. Mm-hmm. Puis dans le cas de ma recherche, ce sont des femmes BIPOC, fait que ça rajoute une couche d'oppression supplémentaire. Donc au niveau de leur corps, c'est vraiment comment est-ce que ce corps-là est perçu? Puis comment est-ce qu'il est traité, en fait, dans l'espace public, mm-hmm. dans l'interaction avec la police. Fait que je prends le corps de manière générale, dans le sens, oui, le corps physique, mais aussi tout ce qui se retrouve dans le corps. Puis,
comme la présence que cette personne-là occupe dans l'espace public, est-ce qu'elle exact. Dérange, par exemple? Ça peut être une question qu'on se pose, j'imagine?
Exactement. Tu sais, juste par le fait de voir peut-être une femme noire... dans l'espace public, ça peut réveiller certains soupçons. Puis là, mm-hmm. on commence à se poser un peu des questions, on commence à se mettre un peu sur nos gardes. Fait que, comme tu dis, le corps dérange. Puis j'avais écouté un podcast qui disait justement que notre corps est politique, puis notre corps, mm-hmm. il vient réveiller justement certains doutes, certaines craintes ou certains questionnements. Donc, ouais.
Parfait, super intéressant par rapport à ça. Donc, ça clarifie un peu les concepts c'est qu'on avait un peu, qui étaient peut-être un peu plus flous dans cette recherche-là. Maintenant, j'aimerais revenir un peu à vos parcours parce que je sais que vous probablement faites pas ces recherches-là par pur hasard. J'imagine qu'il y a comme un chemin qui vous a mené à avoir ces réflexions-là. Qu'est-ce qu'en fait qui a mené en fait à vous de vous intéresser à ce spécifique champ de recherche-là en fait là?
Moi, au départ, c'était vraiment ça partait en fait d'une réflexion personnelle. Puis ça partait encore une fois sur une réflexion vraiment sur mon corps à moi. Parce que je me suis surprise très souvent, tu sais, quand je rentrais en contact avec la police d'une manière ou d'une autre dans l'espace public, que la posture, en fait, de mon corps changeait. Dans le sens qu'il fallait que j'essaie le plus possible de m'invisibiliser pour ne pas réveiller les soupçons, comme on disait tout à l'heure, ou ne pas attirer l'attention.
Intéressant.
Donc, c'est vraiment le fait, en fait, de me lancer dans cette recherche-là est parti de cette réflexion-là. Puis je me suis dit, est-ce qu'il y a d'autres femmes peut-être qui vivent le même type d'expérience? Est-ce qu'elles ont le même rapport au corps justement dans leur interaction avec la police? Puis c'est là que j'ai commencé un peu à regarder les articles ou les recherches ou même à analyser aussi certaines situations d'interpellation policière. Puis l'exemple en fait parfait que j'ai, c'est celui de Pacific Nyokwizera. Que lui, c'est un jeune de 18 ans, puis dans le fond, qui s'était fait vraiment... les vidéos étaient sur les réseaux, c'était vraiment affreux. Il s'était fait vraiment malmener par la police. Les images étaient, en tout cas, très marquantes. Mais moi, ce qui m'a vraiment encore plus touchée, c'est par le fait qu'il y avait deux jeunes filles qui étaient avec lui, puis on voyait justement comment... elles étaient maltraitées au niveau de leur corps, la police les tirait par les cheveux. Puis ça m'a interpellée parce que dans les médias, on s'est beaucoup attardé sur l'expérience de Pacific dans ce moment-là, mais on n'a pas vraiment pris le temps de mettre de l'avant aussi l'expérience de ces femmes, comment elles se sentaient. Puis ça a comme été un peu un déclencheur de qu'il fallait que je me pose vraiment sur ce sujet-là en tant que telle.
Ouais. Puis peut-être pour moi, mais je trouve intéressant ta recherche aussi, que tu t'intéresses pas nécessairement seulement aux violences, mais également à cette, comme l'interaction. Puis c'est pas nécessairement uniquement dans les sphères violentes, mais uniquement des fois de parler à la police. Puis tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sentent nécessairement, s'il y a un stress, il y a une forme de tension qui se crée quand on parle à la police. Puis j'ai l'impression que cette dualité-là est très forte parmi les communautés BIPOC. Puis il y a un truc, moi, que je trouve particulièrement intéressant, puis tu sais, je peux pas parler en tant que personne qui subit aucunement de discrimination, mais il y a beaucoup de vidéos qui circulent de des familles aux États-Unis qui enseignent à leurs enfants comment intervenir quand on rencontre la police. Puis juste qu'on soit rendu à ce stade-là où il faut dire, t'es une personne noire, si jamais la police t'arrête pour une intervention comme un arrêt policier de routine, dis-lui que mets tes mains sur le volant, tu sais, quand tu vas chercher des outils, mettons, il te demande de prendre ton permis, de lui expliquer que tu mets tes mains dans tes poches et pour prendre ton permis, tout ça. Donc, juste qu'on soit rendu là, puis que ce soit un événement de qui soit médiatisé comme ça, c'est assez choquant quand même, là. C'est peut-être un exemple que tu rencontres souvent dans tes recherches, là.
Non, exact. Puis, faut se dire aussi que, tu sais, c'est... ces communautés-là qui vivent cette oppression, c'est historique. T'sais, ça ne date pas d'hier. T'sais, ces techniques-là, c'est des techniques qui avaient été enseignées avant puis qui continuent encore à se transmettre parce que le racisme systémique, l'oppression policière est encore bien présente aujourd'hui puis continue encore à faire des victimes de ces communautés-là. Fait que c'est historique. Mm-hmm.
Ouais. Parfait. Puis ça m'entend, toi, ton expérience qui t'a mené, en fait, parce que j'imagine que là, on est dans quelque chose de précis qui touche vraiment une expérience dans l'organisme communautaire, j'imagine, qui a mené à toi vouloir vraiment donner une voix à ces expériences-là, en fait. Là.
Ça fait longtemps que je me demandais sur quoi j'allais travailler, puis moi, c'était certain que je voulais partir du principe de mettre des mots sur des expériences que beaucoup d'entre nous, je parle des personnes racisées, n'arrivent pas à trouver. J'avais lu un texte d'une militante, Alexandra Pierre, qui parlait justement de Noir sous surveillance, le livre de Robin Maynard. Puis justement, on a lu ce livre-là durant la session. Puis c'est tellement puissant de enfin pouvoir mettre des mots, de pouvoir enfin dire que regarde ce que tu as vécu. Ça existe pas seulement dans ta tête, mais dans des livres, dans l'académique. Puis ça vient te frapper. C'est comme un double choc, non seulement pour l'avoir vécu, mais de dire « wow, OK, ça existe vraiment, là. » Donc, moi, ça part de cette idée-là parce que j'ai... c'est un peu pour rendre justice à toutes ces violences-là que j'ai subies par rapport à mes différents emplois, mais aussi par rapport à ma famille, par rapport à mon entourage. Puis le milieu communautaire, ce qui est intéressant, c'est que, surtout dans le milieu où on lutte contre les inégalités, on va toujours attaquer le problème à l'externe, mais jamais à l'interne. Je trouve ça tellement fou d'entendre des expériences qui existent encore, qui persistent, où on va toujours lutter à l'extérieur, mais jamais à l'intérieur. Il y a un sujet c'est très tabou. Puis, justement, quand j'ai vu George Floyd dans les vidéos, ça m'a vraiment traumatisée. Puis ensuite, il y a eu Joe Sechaquan, puis on le voyait. C'est comme là, les gens ne pouvaient pas dire « ben non, ça n'existe pas, le racisme systémique ». On le voit, là. On le voit de façon très, très crue. c'est là que, oh, soudainement, les entreprises et les organismes sont comme, OK, il faut faire quelque chose, on va être en solidarité, on va mettre en place une politique, on va engager des conseillers conseillères en EDI. Fait que, tu sais, tout le monde réagit très rapidement. Puis moi, je voulais apporter cette attention-là qui m'a marquée, mais qui m'a aussi permis de revoir aussi comment ça se passe à l'intérieur même de... dans l'organisme dans lequel je travaillais. Donc, c'est pour ça que je suis venue à mettre des mots sur des expériences, parce qu'il faut rendre justice à ces personnes-là. Puis, c'est ma manière, dans le milieu académique, de façon très engagée, de mettre ces mots-là, puis de pouvoir dire aux gens que, regardez, je suis pas en train d'inventer des choses, c'est là, c'est prouvé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous remettent en question, qui remettent en question nos expériences. Donc, c'est... Pour moi, c'est de montrer les faits. Voici ce qui se passe, voici comment ça se passe, puis voici comment il faut s'attaquer à ces oppressions.
Puis, on dirait que pour moi, ça me surprend parce que, bien évidemment, je n'ai pas la vision de l'intérieur des organismes communautaires, puis je n'ai pas la vision d'une personne qui est BIPOC non plus, mais de croire que ces milieux-là qui propagent une image si inclusive, qui veulent la justice sociale, peu importe, puis qu'à l'interne, des fois, peut-être que je me mets dans la peau de quelqu'un, peut-être, qui gère un organisme, mais je me dis, je vais mettre l'effort à lutter à l'extérieur pour défaire les injustices, mais prendre le temps de faire le travail sur soi-même, c'est comme un peu perdre du temps ou perdre de l'argent ou peu importe. Je ne sais pas si c'est un peu ça que tu as vu dans tes recherches ou d'autres comme ça. Qu'est-ce qui justifie, je pense, que cette indiscrétion au sein des organismes communautaires?
Mais il y a plusieurs facteurs. Donc, tu sais, il y a le facteur des gestionnaires. Donc, dans le milieu communautaire, on travaille beaucoup dans l'urgence parce qu'on est financé par projet. Donc, il y a très peu de ressources financières pour avoir quelqu'un attitré aux ressources humaines ou même de développer des programmes à l'interne. Puis, il y a aussi l'aspect relationnel. Donc, tu sais, on parle des collègues. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir des collègues qui militent sur ces enjeux, mais qui va avoir des relations de pouvoir. Donc, ça va énormément affecter les personnes racisées. Puis, un autre point important, c'est qu'on constate aussi que quand on travaille avec d'autres partenaires dans le milieu communautaire, c'est souvent aussi à travers ces partenaires-là qu'on peut subir justement des cas de discrimination, de racisme. Donc, il y a non seulement tout l'aspect interne, donc avec les gestionnaires, avec les collègues, mais aussi à l'externe. Je me souviens encore d'une expérience que j'ai eue avec un milieu où il y avait plusieurs partenaires, dont la police. Puis il y a eu des propos qui étaient hyper déplacés. Puis je me souviens avoir été hyper déstabilisée parce que sur le moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment du racisme? Est-ce que je suis en train de vivre ça? Puis je me suis remise en doute. Puis à la fin, une de mes amies, qui est aussi ma collègue, elle m'a dit, Sam, il y a vraiment eu quelque chose de pas correct. Donc, tu sais, on subit aussi à l'externe qu'on navigue avec d'autres institutions, avec d'autres organisations. C'est des choses qui se passent de façon très insidieuse. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de déconstruire nos milieux, pas juste à travers notre employeur, mais aussi à travers les partenaires avec qui on travaille.
Je sais pas, peut-être que aussi on a l'impression qu'on parle de racisme systémique, de discrimination systémique, puis c'est comme un peu super grand. On voit ça comme le système, donc on peut pas vraiment changer ça. Mais c'est intéressant comment vous l'abordez. Dans les deux cas, c'est comme des expériences très personnel, très relation entre deux personnes, puis c'est ça le système en fait qu'on voit, mais c'est comme vu d'une manière, je sais pas si je suis clair comment je l'explique, mais c'est, mettons qu'on parle d'intervention policière, ben la police représente un peu ce système-là, alors que de l'autre côté, c'est un peu la même chose, des systèmes aussi d'organisation, des systèmes de, donc, tout plein de choses, et c'est intéressant de voir cette perspective peut-être plus humaine à un problème, des fois qu'on on met de l'avant comme étant super large et abstrait peut-être. Je vais peut-être vous demander, en fait, là, par rapport à ça, parce qu'on peut essayer de finir le sujet de discussion sur quelque chose, bon, une piste de solution, parler du futur, parler de est-ce qu'il y a quelque chose de positif dans tout ça. Je sais que l'équité, diversité, inclusion, on en parle plus, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, peut-être en parler mieux. Et quand on parle de la police, peut-être qu'on voit peut-être de plus en plus certaines discussions sur les réformes, des chefs de police, par exemple, le nouveau chef de police de la ville de Montréal, qui est bon, il a mis des belles politiques, du moins dans la ville de Longueuil, sur différentes politiques pour former mieux les policiers. Donc, il y a peut-être quelque chose de positif dans tout ça. Il y a peut-être des choses qui sont peut-être négatives, un futur qui est peut-être un peu sombre, comme la journée d'aujourd'hui. Est-ce que.
Bien, c'est sûr que quand on parle de DI, c'est pas une critique par rapport à la politique en tant que telle. C'est plutôt comment les gens l'utilisent. Donc, il y a des organisations qui vont la mettre en place, mais qui n'auront pas de résultats ou de bienfaits sur les personnes qui les vivent au quotidien. Donc, il y a beaucoup de ça que je vais analyser. Mais je pense que l'aspect plus positif, puis un peu, si on veut imaginer le futur, c'est de créer, puis de continuer à créer ces espaces-là de dialogue, d'échange, puis aussi de résistance entre personnes BIPOC, parce que c'est super important d'être bien entouré, de sentir appartenir à une communauté. Puis ça, je le vois de plus en plus, surtout à Montréal, Jojaguet, où il y a vraiment des solidarités qui se créent, il y a des espaces de discussion juste pour les femmes BIPOC. C'est des espaces comme ceux-là qu'on a besoin pour guérir. Parce qu'en parler, c'est une forme de guérison. En discuter avec les gens, c'est une forme aussi un acte de résistance. Donc, pour moi, c'est super important d'aller dans cette vision-là, puis de créer ces espaces-là qui vont être des brave spaces pour s'outiller, s'entraider, mais aussi s'aimer. Parce que c'est très violent ce qu'on peut vivre. Ça révèle des traumas. Donc, c'est important de créer des espaces pour en discuter.
Puis j'aime ça dans parler quand même de trucs concrets. Est-ce que tu as des exemples? Je sais que vous êtes tous les deux à Montréal, basés à Montréal. Est-ce que vous avez des exemples de ces espaces-là qui se créent, des initiatives intéressantes? On est dans une association sociale, on a des initiatives intéressantes que des personnes qui écoutent peut-être pourraient aller consulter ou aller voir peut-être, je sais pas si...
Bien, il y en a un prochainement, la semaine prochaine, le projet PAR, donc le projet... Bien, dans le fond, c'est un projet de recherche, projet PAR, qui est mené par les femmes. Puis, ça vient un peu faire une recherche sur le rôle des chercheurs racisés, chercheuses racisées dans le milieu communautaire. Donc, c'est de comprendre un peu quel est le rôle que jouent ces femmes-là dans le milieu de la recherche et communautaire. Puis, c'est ça, il va y avoir un événement la semaine prochaine pour présenter les résultats, mais aussi d'offrir cet espace-là de guérison, d'échange avec une invitée que j'adore, que j'ai hâte de rencontrer, qui va nous offrir un espace de d'art-thérapie. Je pense qu'il y a de l'art-thérapie par le son, si je ne me trompe pas. Donc, c'est toutes des expériences qui beaucoup misent un peu sur la même vision de Adrienne Murray Brown, sur l'énergie, sur l'expérience, sur le healing. Donc, ça, je pense que c'est super ressourçant. Puis c'est de se retrouver entre femmes et personnes non-binaires, racisées. Ça fait du bien.
Ouais.
Moi, je me sens comme à la maison.
Puis c'est le fun de savoir qu'il y a peut-être des initiatives comme ça qui vont se passer, tu sais, qui se passe de plus en plus, peut-être qu'il y en a de plus en plus de ces espaces-là qui sont confortables, des fameux safe space, endroits où on peut discuter, comme vous dites, discuter, résister, se renforcer en tant que groupe.
Tout à fait.
Fantastique. Ouais. Faravena, est-ce que de ton bord, tu veux nous parler de notes positives, négatives, qui peut être... je vais te laisser la parole. Concernant la police ou les relations avec la police.
Oui. C'est sûr que par rapport justement à ma recherche, moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est que ça pousse plus de personnes, tu sais, à vouloir faire de la recherche sur l'interpellation policière, mais en ayant cette vision intersectionnelle, tu sais, en allant chercher toutes les formes d'expérience possibles, parce que, tu sais, on a bien beau parler de profilage racial, c'est gros, mais il faut aussi tenir compte des autres niveaux d'oppression que peuvent vivre une personne, dépendamment de ses multiples identités. Puis je pense aussi que, tu sais, Samantha, elle l'a dit tantôt, mais il y a toute une portion de trauma que ces personnes-là ont vécu. Puis je pense que pour moi, ce que j'aimerais, en fait, que cette recherche-là puisse permettre, c'est que ces femmes-là, par la suite, puissent commencer à reprendre ses pouvoirs, justement, sur leur corps, se réapproprier leur corps, puis ne plus avoir, justement, ce un peu comme je l'ai vécu, mais cette position un peu recroquevillée sur eux-mêmes, mais que, tu sais, ils puissent vraiment s'épanouir, puis guérir de ces expériences qui ont été douloureuses. Puis c'est sûr que par rapport à la police, où on parle de réforme, on parle de plein de choses, mais je pense qu'on l'a bien nommé aujourd'hui, il faut qu'il y ait quand même ces réflexions à l'interne. Il faut qu'il y ait justement cette sensibilisation-là par rapport aux différentes réalités pour pouvoir justement de plus en plus déconstruire ces pensées qui pour moi sont des pensées coloniales d'oppression qu'il faut déconstruire de plus en plus. Donc,
absolument. Merci. Puis là, je vais vous donner en fait la parole si vous voulez, si vous avez un projet social qui vous intéresse, que vous voulez mettre de l'avant, si vous avez des publications qui s'en viennent ou qui ont été publiées récemment. Je sais que Samantha, je sais que tu m'as mentionné que tu as publié dans une revue récemment. Donc, je ne sais pas si vous avez un organisme que vous voulez mettre de l'avant ou tout ça. Donc, c'est, vu que c'est, on parle d'innovation sociale, je trouve que c'est un bon moment pour le faire. Là, donc, à la fin de l'épisode, pour les personnes qui écoutent, s'ils veulent, agrandir leur bassin d'informations, peu importe.
Au fait, c'est ça, j'ai écrit un court article dans la revue Relations en collaboration avec Michael Séguin, un professeur de l'Université Saint-Paul. Puis on a apporté une critique justement sur l'approche EDI. Le titre de mon article s'appelle « Les politiques de DI, promotion de la diversité ou reconnaissance de façade ». Donc, un article dans lequel je parle vraiment de mon expérience, mais aussi de plusieurs exemples de mouvements sociaux qui en parlent déjà depuis extrêmement longtemps et qu'on a besoin de s'inspirer de ces mouvements pour trouver des solutions concrètes, pérennes et viables pour nos milieux de travail.
Parfait. Donc, on peut lire ça dans la revue Relations, bien sûr. Oui, parfait. Et Faravena, maintenant.
Oui, moi, j'ai suggestion de lecture et, et aussi une place. Donc, ma suggestion de lecture, c'est, je pense que Samantha l'avait nommé tantôt, « Main noire sous surveillance » de Robin Maynard. C'est un incontournable, en tout cas pour comprendre aussi l'historique esclavagiste colonial du Canada. Puis par la même occasion, avoir une portion aussi sur l'expérience de certaines femmes à travers le Canada dans leur interaction avec la police. Il y a aussi « Black Feminism » de Patricia Hill Collins, que je recommande. Et un livre sur l'intersectionnalité aussi de Patricia Hill Collins. Ou sinon, les différents articles aussi et livres écrits par Kimberly Crenshaw, qui, elle, a parti le concept de l'intersectionnalité. Sinon, l'espace que j'aurais, que j'ai découvert il y a comme environ un an, c'est Black Healing Center, qui offre justement un espace aux personnes noires pour pouvoir guérir de certains traumatismes. Puis c'est à Montréal. Puis donc, voilà ce que je recommande.
Parfait. Puis d'ailleurs, le livre « Noire surveillance » ou « Policing Black Lives » en anglais, moi aussi, je l'ai consulté, puis ça m'a beaucoup fait changer ma perspective. En fait, c'est, je pense que c'est le seul livre ou un des seuls livres, en fait, où on met autant, quasiment comme une encyclopédie de statistiques, de trucs extrêmement forts sur l'histoire des Noirs au Canada ou du moins comment ils sont surveillés constamment. Donc, c'est aussi une lecture que je ne pourrais pas recommander davantage, telle que l'a dit Faravena. Je remercie mes deux merveilleux invités. Je sais qu'il est rendu quasiment, il est rendu tard et tout, donc c'est toujours intéressant d'avoir ces discussions-là. Puis le mot final, ce serait peut-être de, comme on parle de déconstruction, on parle de résistance. Donc c'est d'avoir des discussions intéressantes comme on a actuellement et de pouvoir en fait s'ouvrir à ces possibilités-là, donc de comprendre, là, donc, tant dans le milieu communautaire que dans l'espace public. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode très intéressant et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci.